L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Quand on parle d'économie, en général, on pense à ses propres petits deniers. Et puis, en général, on va penser croissance, PIB, parfois néolibéral, pour ceux qui sont les plus adeptes du sujet. Et puis, on peut penser destruction de l'environnement aussi. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Timothée Parikh, qui est un économiste, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ralentir, opérer », qui a gagné le prix de l'essai écolo à l'Obs. Et avec lui, on va parler de décroissance, du lien entre l'économie et l'écologie. En fait, c'est quoi l'économie écologique? Est-ce que c'est juste un concept? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est même possible? Comment on peut envisager un modèle qui soit différent d'une économie dans laquelle on détruirait l'environnement pour pouvoir grandir et pour pouvoir surtout avoir une qualité de vie qui soit au niveau de celle qu'on a aujourd'hui? Et vous allez voir, la discussion, elle est hyper intéressante parce que vraiment, moi, j'ai des tonnes de questions sur ce sujet. Elle est d'ailleurs un tout petit peu longue. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse l'écouter. Allez, Volant, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Timothée.
Bien, bonjour.
Comment tu vas?
Très bien.
Ce petit dimanche matin.
un petit podcast du dimanche, parfait.
Petit podcast du dimanche, voilà, comme ça vous savez ce qu'on fait le dimanche matin. On fait des podcasts.
on est quand même vachement dédié à la cause.
On est très dédié à la cause.
On n'ira pas l'heure qu'il est pour laisser les gens imaginer qu'il est peut-être 6h du mat, qu'on enregistre comme ça à la fraîche.
Il est peut-être 6h du matin, on ne sait pas.
C'est l'urgence climatique, qu'est-ce que tu veux.
Pour toi... En fait, peut-être la première question, c'est est-ce que tu t'es intéressé à l'économie parce que tu te disais, mais comment c'est possible que ce système fonctionne encore dans ce sens-là? Ou est-ce que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est en t'intéressant à l'économie, tu t'es dit, mais c'est quand même pas possible que ça fonctionne comme ça?
Ouais, c'était plutôt l'option 2. Je suis tombé dans l'économie un petit peu par hasard et c'est quand le deuxième par hasard, c'est quand je suis tombé dans l'écologie aussi, mais... J'ai fait un Erasmus, j'ai pris des cours sur la science climatique, donc ce qu'on appelle les sciences de la soutenabilité. Donc tu fais un petit peu de glaciologie, de biologie, de climatologie. Et là, j'ai connecté les deux. Je me suis dit, waouh, il y a un problème là. Il y a un problème parce que je me suis rendu compte que déjà, en économie, on n'avait jamais parlé d'écologie. Et surtout, je me suis rendu compte que tous les problèmes... qu'on étudiait en sciences de la soutenabilité, donc l'effondrement des espèces, la mort des sols, le dérèglement climatique, tous ces trucs-là, et ben en fait, moi, je savais d'où ça venait. Tu sais que c'est un petit peu... T'arrives chez toi et tout a été détruit, et toi, tu sais comment ça s'est passé, quoi. Tu sais qui a fait le crime. Donc t'es là, tu fais « Oh putain, merde, je sais qui c'est. » C'était l'économie.
Pour toi, l'économie et l'écologie, ça s'oppose parce que historiquement, on dit écologie, économie, donc les racines des mots sont les mêmes. On dit donc l'écologie, c'est le discours sur la nature, économie, la gestion de discours sur la maison et gestion de la maison. Donc on a tendance à penser que ça s'oppose pas. Pour toi, ça s'oppose ou est-ce que c'est le système ou le fait qu'on soit allé dans un système hyper capitaliste qui s'oppose?
Alors, je pense que l'économie peut-être en harmonie avec l'écologie, si on a ce qu'on appelle un encastrement. C'est-à-dire que si l'économie, en fait, respecte la vitesse de croisière, la capacité de charge, les règles, les lois du vivant et du monde en général, donc les lois biologiques et les lois physiques. Si, en fait, l'économie, elle reste à sa place, là, bon, il n'y a pas forcément d'incompatibilité. Enfin, après tout, les humains, on est des animaux. Et on utilise des matériaux, des ressources qui existent indépendamment de nous-mêmes. Et donc, la disponibilité de ces ressources dépend de règles plus générales. Hein. Voilà, quand tu vas pêcher un poisson, c'est pas toi qui as décidé de coder l'existence même du poisson. Le poisson existe dans une pêcherie qui elle-même fait partie d'un écosystème complexe, qui elle-même est encastrée dans un océan qui communique avec le climat, là, là, et tout ça. Alors, si en fait, tu arrives avec ta logique économique et te dire « Ah ben moi, je suis là pour, je sais pas, on va dire maximiser les profits », vu que mes profits, ça dépend du volume de vente de poissons, ah bah écoute, je vais toucher les pêchés.
Oui.
Là, t'atteins une incompatibilité. Et moi, j'aime toujours ramener ça un petit peu à la vitesse. De dire, en fait, la nature, elle a des rythmes de croisière. Il y a une limitation de vitesse. Le petit 110 km/h de la nature. Et l'économie, en fait, la manière dont on la pense aujourd'hui, on se dit vitesse illimitée. Pas de souci, c'est genre l'autoroute en Allemagne. C'est ça le capitalisme, YOLO, on y va. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que une économie en surchauffe écologique, eh ben, elle va pas survivre pendant longtemps. De la même manière que dans notre corps humain, tu vois, même un organe en super forme, je sais pas si on cherchait juste à maximiser notre estomac ou ton foie ou quoi, va pas survivre si le reste du corps est en dégradation.
Qu'est-ce que tu penses du concept d'écosophie ?
Écosophie, je sais pas exactement à quoi ça réfère.
C'est la sagesse de la nature, de la sagesse de la maison. En fait, d'un côté, t'as donc le discours, la gestion, et de l'autre côté, t'as la sagesse. Et en fait, l'écosophie, c'est un concept qui est né dans les années 70, par un ou une d'ailleurs, je sais plus, c'est la suédoise, suédois ou suédoise, du coup, en fonction du genre. Je me souviens plus, c'est Arne, en fait, le nom, est, je pense que c'est un homme, c'est Arne.
Ah, c'est Arnenes
le... Ouais, exactement.
Ah, ok.
Tu vois que c'est.
Et, alors, il me semble qu'il était norvégien.
Ah, t'as raison, c'est Norvège.
Ouais. Putain, okay.
J'ai fait la référence avec la Suède parce que voilà, mais...
Ah oui, bon, Arnenes. Et bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours pris des positions un petit peu prudentes vis-à-vis d'Arnenes et de l'écologie profonde. Parce que en tant qu'économiste, on reste quand même assez enfermé dans un autre anthropocentrisme. C'est-à-dire que bon, l'économie, tu l'as dit, c'est l'administration des besoins des humains. Et donc, de cette manière, on a un peu tendance tout le temps à traiter la nature comme un instrument, un truc où on va utiliser des ressources pour notre propre bénéfice. Et c'est vrai que je pense qu'on a besoin d'une certaine sagesse qui va venir développer. Moi, dans mon livre, j'aime beaucoup, j'avais développé le concept de sympathie écologique après Aldo Leopold. Donc, un philosophe qui, lui, était américain. Je pense, voilà, c'est dimanche matin, c'est normal qu'on ne peut pas avoir l'exactitude des noms et nationalités de tout le monde. Donc voilà, Aldo Leopold, s'il n'est pas américain, je m'excuse pour ceux qui le connaissent. Mais de se dire, je pense que ça fait partie... C'est une qualité d'arriver à projeter la sympathie qu'on a entre les humains à des non-humains. Que ça soit un petit bébé panda, ça, c'est assez facile.
Oui.
Mais que ça soit une forêt, une rivière,
une
montagne, un moustique. Là, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Un moustique, une tique, des punaises de lit. Toutes ces jolies créatures que l'on essaye vraiment de sauver.
Complètement. D'ailleurs, quand t'as des moustiques chez toi, tu ne fais que les sauver.
C'est le seul moment où tu te dis, putain, pourquoi est-ce qu'on combat la perte de biodiversité déjà? C'était quoi la raison? Donc, ces philosophies, je pense qu'elles peuvent nous aider à échapper... À ce que certains appellent l'économisme, hein, se laisser un petit peu enfermer dans cette logique administrative où en fait on oublie que nous sommes, que nous faisons partie d'une communauté de vivants beaucoup plus large. Et moi, ça m'avait beaucoup inspiré quand j'avais fait des cours d'anthropologie environnementale de découvrir en fait qu'au fil des millénaires, les sociétés qui avaient réussi à perdurer pendant le temps le plus long sans s'effondrer, donc vraiment les exemples humain de soutenabilité dans sa définition la plus directe, c'était des communautés qui avaient créé, en fait, pas des taxes. C'est pas des gens qui avaient des taxes dès que tu butes une grenouille ou une amande ou quoi. Non, c'était des gens qui avaient créé des récits, en fait, autour du sacré, sur qui avaient personnifié, par exemple, la forêt. Et de se dire, voilà, la forêt est une personne qui vit avec nous, qui nous permet de vivre. Alors, si vous avez regardé Avatar, donc ça, pas besoin de lire l'anthropologie environnementale, vous avez vu Avatar, on voit un petit peu de quoi on parle. Donc, ce contact de considérer la nature comme une personne et donc d'avoir une certaine sympathie, un sens de protection, ce qui t'empêche en fait de faire un truc. Le jour où tu te dis, bah tiens, si on coupait la forêt pour faire des tables Ikea, et ben là d'un coup tu fais, non, de la même manière que tu vois, tu vas pas te dire, moi je vais prendre mon meilleur pote et il va me servir des cafés pour le reste de ma vie ou va venir nettoyer mon appart. Enfin, ça serait utile, moi j'aimerais bien que quelqu'un nettoie mon appart, mais j'oserais jamais demander ça à mes potes.
À Thomas, peut-être.
Thomas Wagner, si tu nous écoutes, je ne suis pas là le mercredi après-midi. Donc tu vois, tes amis, tu as un sens de la sympathie, tu les protèges. Et donc, si on faisait rentrer la nature dans le cercle social de nos amis et de nos amours, et ben peut-être qu'on arriverait à mieux la protéger.
Du coup, parce qu'effectivement, il y a plein de trucs que tu dis qui résonnent. D'abord, la référence au corps humain. Moi, je fais souvent cette référence parce que souvent, les gens ne comprennent pas l'histoire des 3 degrés ou l'histoire de l'écosystème, tu vois, quand tu dis on évolue dans un écosystème, les gens ils ont du mal à saisir. Et du coup, je fais regarde, 3 degrés, t'es à 37 degrés, tu montes à 40, au bout d'une semaine, t'es mort. Tu vois, dans un écosystème, en fait, ça ne fonctionne pas. Et pareil, je prends l'exemple du corps humain. Alors, ça peut être le stress. Moi, je prends souvent l'exemple du stress en disant si t'es stressé, pendant toute une période, tu peux dormir pour te récupérer. Mais si, au bout d'un moment, quand tu pousses le stress, tu vas générer un cancer. Et là, tu peux toujours dormir. Ça va pas marcher, quoi. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc. Donc, j'aime bien cet exemple-là du corps humain, parce que je trouve que c'est un écosystème auquel on arrive à se référer tous et toutes, parce qu'on en a un, en général. Enfin, même pas en général, de manière systématique. C'est dimanche matin, effectivement. Et l'autre truc que tu as dit que je trouve intéressant, c'est sur l'effondrement. Parce qu'en fait, on parle beaucoup d'effondrement. Il y a même du catastrophisme. Mais toi, ce que tu expliques, c'est que c'est pas la planète qui s'effondre. C'est pas les humains qui s'effondrent. C'est une société qui s'effondre. C'est ça que tu dis? Alors après, à voir jusqu'où on pousse.
Ouais, c'est... Aujourd'hui, on a des sociétés qui nécessitent de l'énergie, des matériaux, des services écosystémiques pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Si on est en surchauffe écologique, ça veut dire qu'on va venir dégrader en fait la capacité de ces écosystèmes à fonctionner et donc en partie à nous donner des services et des ressources. Et c'est là où l'effondrement écologique en fait devient effondrement économique. On le voit bien, ça peut être une pénurie d'eau ou une vague de chaleur. Vague de chaleur liée au changement climatique. Donc là, c'est un phénomène écologique qui va créer plein de désagréments humains et qui va en fait compliquer la satisfaction des besoins. C'est ça, la véritable crise économique, c'est pas le PIB négatif, c'est pas une entreprise qui s'effondre, c'est pas ton compte en banque qui se fait lessiver, c'est à l'échelle macroéconomique, c'est que ça devient plus difficile de satisfaire des besoins. Ça, c'est la véritable crise économique. Et donc, on voit aujourd'hui que quand on a une abondance écologique, c'est-à-dire des écosystèmes qui marchent bien, qui sont respectés en termes de vitesse de fonctionnement, donc qui sont en bonne santé et vont pas s'effondrer. Ils sont résilients. C'est-à-dire que de la même manière que voilà, s'il y a un petit coup, il peut se reconstruire. S'il y a une espèce qui s'effondre ou je sais pas quoi, l'écosystème il peut rebondir, il va pas complètement se mettre à plat. Et cette résilience écologique, elle donne une résilience économique.
Et du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de répondre tu sais, cette phrase qu'on a entendue il n'y a pas longtemps du patron de Total qui dit « vous êtes pas dans la vraie vie ». En particulier, venant d'un économiste, c'est intéressant parce qu'il dit ça à Jean Jouzel, donc qui n'est pas économiste. Et je serais curieux d'avoir la réponse de l'économiste.
Alors oui, les économistes ont toujours eu cette arrogance en fait, d'imposer leur version de la réalité à tout le monde. Les sociologues appellent ça la supériorité des économistes. D'ailleurs, les sciences économiques, c'est la seule science sociale qui a un soi-disant Nobel, qui n'est pas un vrai prix Nobel, qui est en fait le prix de la banque suédoise en mémoire d'Alfred Nobel. Donc c'est un prix privé avec le nom Nobel dessus, c'est pas comme les vrais prix Nobel. Mais donc ça leur a donné un petit peu confiance. Et donc ils ont tendance à se dire, là par exemple, on ne peut pas réduire les gaz à effet de serre parce que c'est trop cher. Ça ferait baisser, je sais pas, la croissance. Là, on voit qu'il y a un véritable clash où cette soi-disant réalité économique, qu'il faut maintenir un certain niveau de revenu national, va à l'encontre d'une réalité qui est beaucoup plus large. Enfin, moi, j'imagine Jean Jouzel, le pauvre. Enfin, le climat enrobe l'économie. Dans un monde à plus 2, 3, 4 degrés, il n'y a pas d'économie. Donc, c'était comme William Nordhaus, hein, un économiste qui disait « Oui, c'est pas optimal, en fait, d'agir pour lutter contre le changement climatique aujourd'hui. On peut se permettre de prendre quelques degrés. Ça, c'est optimal en termes de coûts. » Mais là, on voit la règle des coûts. Ça, c'est les règles de Monopoly à l'intérieur des sociétés humaines. Alors que le changement climatique, c'est quelque chose qui le dépasse complètement. Donc moi, je prends complètement en tant qu'économiste le côté de Jean Jouzel et de dire c'est exactement ce réalisme économique des sociétés capitalistes représentées parfaitement par Patrick Pouyanné aujourd'hui qui est en train de détruire la planète. Et donc c'est ce réalisme qu'il va falloir déconstruire en se rendant compte que dans des sociétés humaines, de toute manière, nous construisons notre propre définition du réel. Donc c'est pas, il y en a... Mais je pense quand même que le récit qui dit que la nature, il y a une nature qui existe en dehors de notre définition de la réalité, et si vous voulez faire l'expérience vous-même, essayez de ne pas manger pendant plusieurs jours, vous allez voir qu'au bout d'un moment... Bon, ça va pas marcher, ou arrêter de boire, ou voilà. Donc il y a quand même une réalité biophysique qu'on ne peut pas dépasser. Pareil, les lois de la pesanteur, bon... Vous pouvez tenter hein, d'y penser très fort, essayer de voir si vous arrivez à l'éviter aujourd'hui.
En sortant d'un immeuble, par exemple.
Même si vous êtes milliardaire, ça risque de ne pas marcher. Donc si, en fait, on a ces règles qui régissent l'intégralité du vivant, du monde physique et donc de l'économie, ceux qui, comme Patrick Pouyanné, disent que, bah voilà, on a des règles plus importantes, des lois économiques qu'il faudrait respecter, qui seraient au-dessus des lois de la thermodynamique, au-dessus des lois de l'évolution biologique... C'est un excès d'arrogance.
Ouais, on peut se dire ça. Ça me fait penser à cette phrase, je sais pas si j'ai entendu, du porte-parole du gouvernement qui disait on ne peut pas créer de la dette pour lutter contre la problématique écologique, mais en tout cas, on ne peut pas trop créer de la dette parce que ça serait criminel d'endetter les générations futures.
Oui, c'est vrai. Alors, le dérèglement climatique est la dette ultime. T'imagines, ce qu'on lègue aux générations futures, c'est un monde réchauffé, plein d'événements climatiques extrêmes, sans eau, sans espèces, sans sol fertile. Donc, c'est marrant de se dire « Oui, mais écoutez, au moins, ils auront des euros. » Je veux dire, ils sont contents. Ils pourront les manger ou essayer de les brûler pour se tenir au chaud l'hiver. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un inversement des... Enfin, on devrait avoir des priorités complètement inverses. L'argent, c'est des billets de Monopoly. En l'état actuel, ça sert à rien. Enfin, on a vu... que la Banque Centrale Européenne, depuis 2015, quand même, a créé des milliers de milliards donc, à travers ses politiques d'assouplissement quantitatif. Donc, on a quand même une certaine capacité historique à annuler des dettes, à injecter de la monnaie, à créer des nouvelles monnaies, enfin, les plus de 80 monnaies complémentaires qu'on a en France, qui n'existaient pas avant. Donc, la monnaie, on voit vraiment que c'est plastique, c'est une institution sociale. Alors que, par contre, si tu vis dans un monde à 4 degrés, tu vis dans un monde à 4 degrés. Mmh. Donc, et... Même les économistes qui viennent calculer un petit peu les coûts, enfin là, quand tu regardes, je sais pas, le coût d'une inondation, quand t'as un barrage qui craque, comme on a vu en Libye, ou un tremblement de terre, enfin imagine, ou le coût même d'une pandémie, toutes ces choses-là qui peuvent être liées de manière plus ou moins directe à la dégradation des écosystèmes. Donc là, de se focaliser vraiment sur le tableau Excel, de se dire « Ah ben non, mais il faut vraiment faire attention d'avoir une certaine rigueur budgétaire et d'utiliser ça comme un discours de l'inaction climatique, je pense qu'un jour, ça sera considéré comme un discours criminel. »
C'est ça. Et en même temps, tu parlais tout à l'heure de récits, on n'envisage pas d'autres récits. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de décroissance, on imagine souvent des problématiques de l'emploi. C'est-à-dire que souvent, quand tu vas parler avec des patrons de boîte, ils vont te dire « Bah oui, mais du coup, enfin... Comment on fait pour les emplois, pour le bien-être de tout le monde. » Et on a tendance, du coup, à opposer décroissance et bien-être. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ce genre de questions, ou en tout cas, de point de vue?
J'ai toujours trouvé ça surprenant qu'on considère l'emploi comme quelque chose de positif. Donc là, par exemple, l'autre jour, au Salon Pro Durable, je débattais avec la PDG d'une entreprise d'eau minérale belge et quelqu'un lui posait, donc la modératrice lui demandait quel est l'impact positif. Parce qu'elle avait dit « Oui, mais nous, on a peut-être un impact écologique négatif, mais on a un impact social positif. » Et la modératrice, qui était, je pense, assez sceptique hein, sur l'existence de l'eau en bouteille, lui demandait « Mais c'est quoi l'impact positif ?» Et je ne ferai pas d'imitation d'accent belge. Je te vois me regarder
non,
là
non,
comme
on
ça.
Va pas là-dedans.
Et donc là, cette PDG qui était dans une situation difficile, elle dit oui, bon, écoutez, on a des emplois. Et moi, en tant que scientifique du social, c'est ultra bizarre. C'est-à-dire que c'est John Maynard Keynes qui disait, si tu veux atteindre le plein emploi, tu payes la moitié de la population à creuser des trous, l'autre moitié à les reboucher. Et c'est vrai, quoi. Enfin, on voit vraiment que l'emploi, c'est une catégorie intermédiaire. Le travail, c'est que tu as un besoin insatisfait, tu vas mobiliser des ressources naturelles et humaines pour créer une capacité productive qui va te permettre de satisfaire ce besoin. Donc l'emploi, c'est vraiment quelque chose qui est dépendant à la satisfaction du besoin. Et aujourd'hui, on a presque oublié ça, et tu as des entreprises, notamment publicitaires, qui disent « Non mais nous, regardez, on crée énormément d'emplois. » J'ai dit « Oui. » Une autre façon de dire la même chose, c'est pour une activité inutile, voire néfaste, la publicité, vous monopolisez le temps de cerveau de personnes très créatives qui sortent d'école et d'université, et vous gâchez leur temps pour, je sais pas, vendre des frites ou je sais pas quelle pub, alors que ces personnes-là pourraient faire quelque chose de bien plus utile à la société ou de bien plus utile à eux-mêmes s'ils avaient ce temps qui était disponible. Donc l'emploi, on peut le voir vraiment dans un prisme beaucoup plus contextuel, de se dire bah ça dépend de l'utilité sociale de l'activité productive. Donc moi, si, par exemple, aujourd'hui, on arrivait à se débarrasser de la publicité, les entreprises, et c'est leur argument, diraient « Oui, mais regardez, qu'est-ce qu'on fait ? On vire tout le monde ?» Là, en fait, c'est un petit peu un chantage de dire « Oui, ils vont tous tomber dans la pauvreté. Si on ne les emploie pas, personne ne les emploiera. » Mais c'est faux. Ces personnes, c'est des personnes qui sont allées en école, c'est des personnes créatives. Il faut juste qu'on trouve un moyen de faire cette transition pour pas qu'ils se retrouvent sur la paille comme ça. Mais on ne peut pas justifier de se dire « Oui, écoutez, oui, non, mais on doit continuer à faire de la pub pour les 4x4 parce que vous comprenez, sinon... ces personnes se retrouveraient sans emploi, ils iraient sûrement faire la manche dehors. » Enfin, on voit de toute façon cet argument, il tient pas la route. Il tient pas la route du tout. Et si on prend tout ce qu'une économie produit et on essaye d'appliquer ce prisme un petit peu de l'essentiel et de l'inessentiel, alors ça paraît difficile et quand on dit ça, les gens se disent toujours « Oui, mais qui décide ?» On l'a fait pendant la pandémie. Il y avait des grandes divisions qui ont été faites légalement et informellement entre l'essentiel et l'inessentiel. On a chacun pris des décisions individuelles de se dire « Est-ce qu'aujourd'hui, mon travail vaut la peine que je mette des personnes dans une situation de risque de contagion ?» Ben, je pense que les gens qui faisaient de la publicité ou qui étaient des financiers qui travaillaient dans des banques à la défense, j'ose espérer qu'ils sont restés chez eux. Alors que si les infirmières...
Les pompiers, les
agricultrices et tout ce que tu veux, les éboueurs, et ben ils sont allés bosser. Donc cette division, elle existe. Le capitalisme essaie de nous convaincre qu'elle n'existe pas et que en fait l'utilité d'un emploi se mesure en proportion du revenu que tu reçois. Mais moi, j'avais fait ce petit calcul dans le livre qui n'est pas complètement exact, mais l'idée est là. C'est-à-dire qu'en termes de coût, l'intégralité de tous les éboueurs de France, c'est à peu près le coût de notre équipe de France de football. Si tu devais choisir pendant un an, tu préférais ne plus avoir des boueurs et devoir t'occuper de tes poubelles toi-même ou de ne pas avoir d'équipe de foot professionnelle. Tu pourrais avoir une équipe de foot amateur, hein, mais pas de foot professionnel. Bon, bah, je pense que la plupart des gens, quand même, ils arriveraient à faire la différence entre l'essentiel et l'inessentiel.
Mais par contre, les joueurs de foot, pour filer la métaphore, ils envoient du... Ils créent, enfin j'en sais rien, moi j'aime pas le foot, donc je suis certainement pas le meilleur avocat pour le foot, mais enfin ils créent du rêve, ils créent du divertissement, ils te permettent de sortir de la torpeur de la vie quotidienne, tu vois, ils amènent quelque chose. Je suis pas en train de justifier les salaires des footballeurs, hein, mais c'est juste pour l'argument en fait.
Après, est-ce qu'ils pourraient pas faire la même chose dans un cadre économique où ils sont pas payés les salaires mirobolants qu'ils ont aujourd'hui ? Et surtout, est-ce qu'on pourrait pas avoir plus de ces choses-là ? Parce que je suis d'accord, c'est ça vraiment qui est important, si on avait beaucoup plus de temps libre. Parce que si on défile un petit peu l'argument, de se dire aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, pour pouvoir se permettre de vivre à Paris, il faut pouvoir payer un loyer exorbitant, parce que la plupart des appartements parisiens sont possédés par une minorité possédante. Et donc, qui a spéculé sur les prix de l'immobilier et qui les utilise donc pour, comme source de revenus. Donc, pour vivre à Paris, tu dois forcément choisir une carrière professionnelle très lucrative. Donc, tu vas pas être coach volontaire ou gérer la chorale de la rue ou lancer un parti politique ou une monnaie complémentaire. Non.
Clairement.
Tu vas aller travailler dans une banque, tu vas faire de la publicité, tu vas faire énormément de trucs qui, macroéconomiquement, en termes de satisfaction des besoins, sont pas très utiles, mais toi, au moins, ça va te sécuriser dans ton pouvoir d'achat. Là, dans une économie où, justement, on arrive à partager un petit peu mieux l'accès à des infrastructures clés, dont le logement, ce qui fait que ça dégonfle un petit peu le prix, ce qui fait que ça te permet d'avoir la même qualité de vie tout en ayant un pouvoir d'achat plus faible. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux te permettre d'un coup non seulement de changer de carrière, si vous nous écoutez et que voilà, vous êtes ingénieur pour une grande marque automobile et qu'on vous force à, je sais pas, faire des travailler sur des 4x4, des trucs, vous n'avez pas envie de faire ça ou faire de l'obsolescence programmée, bah, si vous avez une certaine sécurité économique, dire bah voilà, moi je fais pas ça, je me casse et je vais travailler sur des trucs qui ont de l'importance. Ou vous pouvez vous permettre aussi bah, de faire varier votre temps de travail, dire bah voilà, moi là j'ai envie de fonder une famille et j'ai envie de prendre du temps, j'ai envie de prendre quelques années. Ah bah tiens, là j'ai envie d'écrire un livre, là j'ai envie de faire un podcast, j'ai envie de faire ces choses-là. La plupart des choses que les gens aujourd'hui ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas le temps libre, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter leur propre temps libre. Parce que leur temps libre, d'une certaine manière, est pris otage d'une société où pour pouvoir juste simplement vivre, il faut déjà monétiser l'intégralité de ton temps de travail pour le vendre donc sur le marché du travail. Donc moi, dans ce sens-là, quand on remet dans le contexte de décroissance et bien-être, ben, il y a quand même pas mal de petites lumières qu'on entrevoit à la fin du tunnel, de se dire bah, une société en fait, où on a simplifié les besoins et où on a créé des mécanismes de partage qu'on n'avait pas avant. On l'a fait avec la sécurité sociale. Hein. La sécurité sociale, ça n'existait pas avant, on l'a créée. Donc là, on peut très bien imaginer des évolutions comme Benoît Boritz parle de la sécurité économique, hein, essayer de penser un petit peu l'étape d'après. Vincent Liget parle de la dotation inconditionnelle d'autonomie, ça peut être plein de systèmes différents, qui pourraient sécuriser la qualité de vie tout en donnant un petit peu de flexibilité pour que les gens aujourd'hui puissent avoir un élan d'autonomie pour faire des choses que l'on n'a pas fait avant. C'est ça aussi pour moi la transition écologique, c'est si l'on admet en fait qu'il va falloir changer le système et inventer des nouvelles choses, c'est que c'est un défi d'innovation. C'est-à-dire qu'on va arrêter de faire certaines choses, mais il va falloir inventer une nouvelle manière de vivre. Bien, il faut qu'on se donne le temps de l'inventer, ce truc-là. Et ce temps de l'inventer, on ne l'aura pas si on est tous à avoir deux boulots et à bosser des heures pas possibles.
C'est clair. Bah, c'est un peu la logique en même temps. Enfin, je suis pas en train de parler de complot, mais c'est un peu la logique du système, c'est-à-dire qu'il auto-fonctionne. Puisque l'économie c'est une science sociale, donc c'est une science molle entre guillemets. On déteste ce mot, mais c'est quand même le mot. C'est hyper significatif d'ailleurs qu'on dise ce mot. Comment ça se fait que les économistes, de manière assez générale, je parle pas, soient pas décroissants? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous cette logique, cette croyance que l'économie... Je sais plus comment s'appelle l'économiste de France Inter le matin, hyper libéral. Il n'est pas du tout dans cette logique, en fait. Et la majorité des économistes, en réalité, ne sont pas vraiment dans cette logique.
Eh ben, je suis assez surpris. Hier, pareil, on débattait au Monde avec plusieurs économistes sur le rôle des économistes aujourd'hui en société. Et c'était l'une des questions. Et même les autres économistes étaient surpris de me voir sur le panel, parce que bon, la plupart n'avaient jamais vraiment entendu parler de décroissance et ou d'économie écologique. Et en fait, il y a une véritable standardisation de la façon de penser en économie, parce que bon, les sciences économiques, c'est vaste, hein. Il y a au moins 7 écoles de pensée, ça peut être économie autrichienne, institutionnelle, post-keynésienne, marxiste, féministe, écologique, il y en a plein. Et néoclassique, mais très souvent, en fait, les économistes qu'on entend à la radio ou à la télé représentent juste une chapelle, une des 7. L'économie néoclassique.